Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, il est à mes côtés, prêt à nous rassurer s'il le faut, à nous faire du bien. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors dans notre grand dossier du jour, on va s'intéresser à votre silhouette et à votre assiette. Et si pour maigrir, il suffisait de retrouver le plaisir de manger. Aujourd'hui, vous allez voir, on oublie les régimes draconiens qui de toute façon nous font perdre nos repères, mais bien souvent pas nos kilos en trop. Alors on va vous présenter une nouvelle méthode qui permet en 3 semaines de s'alléger sur la balance avec les recettes de votre enfance. Pour en parler et nous détailler ce programme, nous recevrons son concepteur, le docteur Patrick Serog. Il est médecin nutritionniste à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, focus cet après-midi sur la pancréatite, cette inflammation du pancréas. Savez-vous par quoi elle est causée? Quels sont les premiers signes pour ne pas passer à côté? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une auditrice dont la vie de couple a été bouleversée par une chirurgie esthétique.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour commencer ce magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui par cette question d'Anthony. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Voilà, j'ai eu la Covid-19 il y a 2 mois et je n'ai toujours pas retrouvé le goût ni l'odorat. Je me demande s'il y a un risque pour que ça ne revienne jamais parce que ça me fait vraiment flipper. Et puis, j'ai entendu parler de la rééducation olfactive. J'aimerais savoir en quoi ça consiste et vers qui me tourner pour en bénéficier. Merci pour votre réponse, bonne journée.
Alors Jimmy, des gens comme Anthony, avec des symptômes persistants, donc anosmie aiguë, mais d'autres même, hein, qui persistent de nombreux mois après la maladie, on sait qu'il y en a vraiment de plus en plus, hein, d'abord.
Bah, il y en a de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de malades, et c'est le risque de laisser une épidémie se contrôler. Non contrôlée, c'est d'avoir de plus en plus de Covid long, des patients qui ne vont pas récupérer. Alors heureusement, c'est rare pour l'anosmie, et ce qu'on constate, notamment avec le variant anglais, c'est qu'il y a de moins en moins de pertes de goût et de l'odorat. On a beaucoup de symptômes, mais on garde l'odorat et ça serait lié notamment au variant anglais.
Très bien. Alors pour vous répondre, Anthony, avec précision concernant ce problème en particulier d'adosmie et d'aguesie persistante, on a interrogé pour vous le docteur Gilles Ayoun, il est médecin ORL à Paris.
Au niveau de l'anosmie post-Covid, en fait, c'était les anosmies post-virales, post-infection virale. Le Covid, comme beaucoup d'infections virales, vont affecter les neurones situés dans le bulbe olfactif. Et c'est cela qu'on va pouvoir rééduquer. La mémoire olfactive n'est pas une mémoire d'objet, c'est une mémoire de situation. C'est des madeleines de Proust. Il sort des madeleines, ça lui rappelle ses vacances chez sa grand-mère. Quand vous allez faire une rééducation olfactive, il va falloir faire appel à ce cerveau émotionnel. Le but de la rééducation olfactive, c'est créer un lien entre ce que le bulbe olfactif va percevoir et la mémoire olfactive très puissante que vous avez des objets que vous sentez. J'ai pour habitude de débuter avec du café, de l'ail et du citron. 10 minutes matin et soir, pas plus, parce qu'après le cerveau est fatigué. Donc oui, la rééducation olfactive sert bien évidemment. Elle est lente et régulière. C'est surtout sur la longueur que les gens retrouvent un bénéfice.
Voilà, c'était le docteur Ayoun au micro de Barbara Silvera Sonigo. Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous, celle de Rachel.
Bonjour Jimmy et Mélanie, j'ai une petite question à vous poser. Dans les films, j'entends souvent l'expression « faire une syncope » et puis je me demandais, en fait, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Merci beaucoup.
Bon, Jimmy, question simple. Je ne sais pas si la réponse est simple, mais c'est quoi une syncope?
C'est extrêmement simple. C'est la perte de conscience brève. Ça va durer quelques secondes,
pommes, quoi, hein,
à quelques minutes exactement, mais c'est d'apparition brutale. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de vous préparer au malaise. C'est un peu comme si vous éteignez la lumière et tout d'un coup, paf, vous tombez. Et sauf que la récupération, elle va être spontanée et vous allez vous réveiller comme si de rien n'était. Et c'est lié au fait, dans la plupart du temps, que dans le cerveau, eh bien, il y a une baisse du débit sanguin, la pression chute. Et comme la pression chute, il n'y a pas d'oxygène. Et donc, pour vous protéger, le cerveau vous fait comprendre qu'il faut tomber par terre pour être oxygéné et retrouver la conscience.
Alors avant de rentrer un tout petit peu plus dans le détail, quand quelqu'un fait une syncope face à nous, hein, tout d'un coup, pouf, je tombe, Jimmy, comment il faut réagir? Il faut me rattraper? Il faut me positionner d'une certaine façon? On essaye de me réveiller?
Alors
quoi?
Souvent, la personne est déjà au sol, on n'a pas le temps d'avoir à rien, puisqu'elle tombe de son poids et souvent, elle peut se faire mal et c'est là le danger. En fait, elle peut véritablement se cogner la tête et faire un véritable traumatisme. Dans ces cas-là, on laisse la personne tranquille. Normalement, au bout de quelques secondes,
mais
évidemment.
Mais pas des claques un peu pour.
Non, ça sert à rien. Ça retombe. Alors on vérifie 2 choses, évidemment, qu'elle respire et qu'elle a un pouls. Et puis dans ces cas-là, elle va retrouver spontanément sa conscience. Inutile de vouloir lui donner de l'eau sucrée ou essayer de lui faire quoi que ce soit, si ce n'est peut-être de lever un peu les jambes, car lorsque la pression baisse, le fait de surélever les jambes permet justement de faire monter la tension et donc d'améliorer un peu la récupération.
Alors ça peut être, vous l'avez décrit, un épisode isolé comme ça, pouf, quelqu'un tombe pour une raison X ou Y, mais certains font aussi des syncopes à répétition. Dans tous les cas, il vaut mieux consulter parce qu'il faut trouver la cause, non ?
Alors la cause la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la syncope vasovagale, c'est-à-dire que vous avez une douleur intense, vous avez une émotion, vous avez une baisse de la tension artérielle, vous tombez dans les pommes, c'est pas très grave. En revanche, si vous avez des antécédents de maladies cardiovasculaires, si ça survient à l'effort, si ça survient en étant allongé, si vous avez eu des palpitations, c'est-à-dire le cœur qui bat un peu plus vite, ou s'il y a des antécédents de mort subite dans la famille, eh bien là, c'est une urgence, il faut être hospitalisé, donc il faut passer par la case urgence à la recherche de deux choses. Un, de l'arythmie, des troubles du rythme cardiaque, ou deux, une histoire d'infarctus. Enfin, chez la personne âgée, n'oubliez pas que certains traitements peuvent entraîner des syncopes. Donc quand ça survient à répétition, on va voir le médecin traitant.
Adapter un peu le traitement.
Pour adapter le traitement et éviter que ça recommence.
Quand l'origine est cardiaque, vous aviez dit, ça peut être parfois des troubles du rythme. Là, j'imagine, c'est là, dans ces cas-là, qu'on peut poser peut-être des pacemakers ou des dispositifs comme ça.
Exactement. Mmh. Ça peut être révélateur d'une arythmie grave avec des troubles du rythme qui vont nécessiter une stimulation. Donc on fait des examens, vous atterrissez aux urgences et on va vous mettre une petite pile lorsque c'est un trouble du rythme un peu sévère. Mais en gros, le message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut consulter après une syncope.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 3921, bah surtout, n'hésitez pas, c'est 50 centimes d'euros la minute.
Europe 1.
Dans un instant, notre grand dossier du jour, un dossier gourmand, alléchant, bien qu'on s'intéresse à la perte de poids. Passez votre tablier, sortez les casseroles, on va vous aider à maigrir avec les recettes de votre enfance. Bœuf bourguignon, poule au pot, couscous, oui oui, elles peuvent être votre meilleur allié pour perdre des kilos. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. Bienvenue, docteur Serroc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous venez de sortir un livre. Son titre, c'est « Maigrir avec les recettes de votre enfance », coécrit avec la psychologue Roselyne Lévy-Basse et publié chez Marabout. Alors, docteur, c'est étonnant de mettre dans la même phrase, je trouve, « Maigrir et recettes d'enfance ». En général, elles ne sont pas vraiment light. Enfin, les recettes de ma grand-mère, en tout cas, j'imagine. Comment vous est venue cette idée déjà au départ ?
L'idée est venue que quand on reçoit des patients et qu'on leur demande à la fin de l'entretien nutrition, quand on leur a préparé une nouvelle alimentation, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de manger, tout ça, reviennent régulièrement des recettes en fait de leur grand-mère. Hein, et parce que c'est un peu retrouver leur histoire, leur vie, et donc ils voudraient bien la reproduire. Est-ce que je pourrais bien manger un couscous, par exemple ?
Une blanquette de veau.
Une blanquette de veau, ouais. Un bœuf bourguignon, est-ce que je pourrais le faire ? Voilà.
Et puis, à l'heure des réseaux, on est tous en recherche de modernité, de trucs un peu nouveaux, des régimes parfois un peu farfelus, 2.0. Vous faites la démarche inverse. Finalement, vous proposez de maigrir en revenant aux traditions. C'est particulier.
Oui, c'est particulier parce que en fait, la tradition, c'est l'histoire de la transmission. C'est ce qui nous permet de génération en génération de transmettre une partie de ce que nous sommes. C'est notre identité, en fait. Et donc, dans la cuisine, dans ce que nous mangeons, nous recherchons toujours cette partie, en fait, de nos ancêtres et qui devient nous-mêmes, que nous modernisons, que nous changeons et que nous allons transmettre à nos enfants.
C'est un livre qui s'adresse à qui ? À ceux qui ont tout tenté, qui ont fait tous les régimes restrictifs, qui ont échoué, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, quand on essaie d'enchaîner les régimes, en général, ça se termine par plus de kilos. C'est souvent le cas chez les patients qui vous consultent, après des régimes
C'est souvent le cas, surtout, ils ont eu beaucoup de déplaisir. Beaucoup de déplaisir, déjà, de suivre des régimes restrictifs, beaucoup de déplaisir de regrossir après, quand ils sont revenus à une alimentation, dirons-nous, plus habituelle. Et donc, l'idée, c'est comme ça que l'idée est venue, en leur disant, écoutez, on peut peut-être arriver à maigrir, puis si vous avez quelques kilos à perdre, et surtout à vous stabiliser, parce que maigrir encore, c'est assez facile, mais garder son poids, c'est plus dur, tout en gardant une alimentation que vous aimez bien, qui correspond à votre histoire, ou bien à celle des autres. Parce que très souvent, quand on emprunte en fait des recettes de cuisine, on va piocher chez les autres des choses que l'on va transformer, que l'on va finalement incorporer à soi-même.
Ah oui, parce que moi j'aime les recettes de ma grand-mère, mais je suis sûre que la vôtre aussi, Jimmy, doit être pas mal, hein, les recettes de grand-mère.
Ah bah dit comme ça, tout d'un coup, là je repense, effectivement, il y a un peu de nostalgie, mais depuis un an, on vit une période un peu particulière, confinement, déconfinement, couvre-feu, et forcément, source de stress, d'anxiété collective, et donc on a pris quelques kilos. Et c'est des kilos, vous nous avez parlé, c'est des kilos émotionnels, c'est ça qu'on aurait pris au fait du stress ?
Oui, parce que ça a été un grand stress quand même d'être privé de liberté, de changer ses habitudes de vie, de devoir rester tout le temps à la maison, parfois avec des enfants et qui sont agités, ce qui est bien normal.
Des enfants et beaucoup trop de gâteaux, moi je dirais, surtout à la maison.
Voilà, et on a essayé de se faire plaisir. Oui. On a essayé de se faire plaisir et de leur faire plaisir aussi, ouais. Bien sûr. Et en faisant ça, on a fabriqué des aliments qui étaient beaucoup plus gras. Surtout si on se rappelait les recettes de grand-mère à l'identique, eh bien c'est effectivement beaucoup plus gras et sucré.
C'est ça, on en a fait pas mal chez les Gomez, je confirme. Alors, le secret pour maigrir sur la durée, c'est quoi au final? Je crois que le mot le plus important pour vous, et on le comprend avec ce bouquin, c'est le plaisir, c'est ça? On peut maigrir dans le plaisir?
Le plaisir a été conçu pour que nous continuions à manger. Quand nous n'avons plus le plaisir, nous arrêtons de manger, puis nous mourrons 3 mois plus tard. Voilà, c'est un peu ça le schéma. Donc on a intérêt à garder
donc
le plaisir.
Donc on a décidé de vivre. Donc
voilà, on a décidé de vivre. Si on a décidé de vivre, ça veut dire qu'on va effectivement développer ce plaisir. Et on est toujours tiraillé entre « mais si j'ai beaucoup de plaisir, je vais manger des choses qui sont très caloriques ». Eh bien, pas forcément. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, qu'on peut se débrouiller autrement et qu'on peut se faire très plaisir en mangeant des recettes qui sont celles de notre histoire.
Et justement, cette méthode pour maigrir grâce aux recettes de grand-mère, vous l'avez écrit avec une psychothérapeute, mais du coup, c'est un régime ou une thérapie ?
En fait, nous l'avons écrit à tous les deux parce que c'est le troisième livre que nous écrivons sur ce qu'on a appelé le donner-recevoir-rendre, le concept du donner-recevoir-rendre. Toute notre vie, en fait, nous donnons beaucoup, nous recevons et nous rendons. Et ce système nous permet de vivre avec les autres. Bon, la cuisine est typiquement un des outils de ce donner-recevoir-rendre, obligatoirement. Et nous l'avons écrit chez l'enfant, qu'est-ce qui se passait quand ça ne se passait pas bien. On l'a écrit chez l'adulte. Et maintenant, on s'est dit, puisqu'on pourrait très bien l'appliquer finalement à cette histoire des recettes de grand-mère qui nous habite finalement depuis très longtemps et avec laquelle on peut faire quelque chose et donc maigrir, dirons-nous, agréablement.
Et donc maigrir avec ce qu'on appelle la mémoire de l'expérience gustative, puisqu'on est dans les recettes de notre enfance. C'est-à-dire qu'on va maigrir en se reconnectant à notre enfance, c'est ça?
Oui, on va maigrir en se reconnectant à des recettes que l'on a connues dans notre enfance ou bien même que l'on a entendues de chez des amis ou qu'ils avaient ces recettes. Tiens, c'est intéressant et tout ça. Et on se laissait approprier. Et c'est un petit peu la recette d'une autre grand-mère, mais qui devient finalement notre grand-mère aussi.
Toutes les grand-mères, elles ont du bon.
Absolument.
Et vous dites dans votre livre que ça s'appelle même des recettes doudou parce qu'elles sont sécurisantes, c'est ça? Quand on se rappelle de ces plats d'enfants, c'est un peu comme si on retrouvait notre petit ours en peluche.
Il y a des moments où on est triste, où on a besoin de réconfort, des moments où on a des pensées même qui sont un peu déroutantes et dans lesquelles on a besoin de se réfugier. On voit très souvent des gens à ce moment-là se mettre à faire la cuisine.
Moi, je ferais bien un riz au lait à la cannelle de ma mamie. Voilà, c'est ça qui me réconforte.
Exactement. On a besoin de plats réconfortants. Et
mais il n'est pas très light quand même, le riz au lait de ma grand-mère.
Oui, c'est pour ça qu'il faut peut-être le faire évoluer. Hein. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, c'est ça les recettes doudou, ce sont ces recettes finalement.
C'est laquelle la vôtre de recette doudou, si
alors,
je peux me permettre?
Ma recette doudou, c'est d'une part le foie haché avec des oignons et des œufs hachés.
Et ça, voilà. Ça fait grossir ou pas? Parce que ce soit bon, j'en doute pas. Mais...
Oui, ça ne fait pas grossir. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir. Mais c'est vrai que c'est... Alors, on sait comment l'alléger pour qu'il garde le même goût, mais qu'il soit un peu moins gras que la recette traditionnelle qui était très grasse.
Et vous, Jimmy, votre doudou, c'est quoi?
C'est un gratin de pâtes avec de la sauce béchamel et de la viande hachée. C'est un truc qu'on ne fait pas ici, mais tout le monde trouve ça dégoûtant, mais j'adore ça.
Parce que finalement,
et vous, Mélanie, c'est...
Bon, moi, c'est le riz au lait de ma grand-mère. Je reste toujours avec beaucoup de cannelle.
Et un peu de paella tout à l'heure, vous avez dit.
Oui, la paella aussi, c'est un bon souvenir. Bon, docteur Serog, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans son rendez-vous, on va rentrer un peu plus en détail dans cette méthode que nous propose aujourd'hui notre invité, maigrir grâce aux recettes de grand-mère. À ces plats réconfortants et alléchants, peut-être un peu allégés quand même pour certains, vous verrez. On peut mincir en se reconnectant finalement à notre enfance. A tout de suite sur Europe 1.
Son rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours avec nous, c'est vous, docteur Serog. Vous êtes nutritionniste à Paris et le co-auteur du livre Maigrir avec les recettes de votre enfance qui est paru aux éditions Marabout. Alors on va désormais entrer dans le vif du sujet, le fameux programme alimentaire que vous nous proposez pour maigrir grâce à ces recettes de notre enfance. Parce que finalement, au-delà des souvenirs agréables que ça nous procure, c'est surtout, souvent, hein, une cuisine finalement de bon sens. Hein.
Oui, c'est une cuisine de bon sens, c'est-à-dire d'abord faire des repas.
Il faut souvent le rappeler aux gens qui veulent maigrir. En fait, pour maigrir, il faut manger.
Il faut manger.
Et assez.
Voilà. C'est le grand problème d'aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, les gens ne mangent pas assez. Pourquoi? Parce que leur repas, c'est un repas contracté, c'est-à-dire qu'ils vont faire un plat principal avec un légume ou un féculent ou les deux mélangés. et puis un café.
Ouais, ou une barquette au micro-ondes, mais c'est pas cuisiné,
Oui, mais même ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il nous faut beaucoup de nutriments, finalement, pour arriver à vivre correctement. Voilà.
Et vous dites d'ailleurs qu'il faut une entrée, un plat et un dessert à chaque repas.
Oui.
Mais du coup, qu'est-ce que ça change de manger ou pas son entrée ou son dessert, finalement ?
Eh bien, c'est la quantité de nutriments que l'on va avoir et la variété des nutriments. En fait, pour renouveler nos cellules de l'organisme, qui se renouvellent très rapidement, il faut rappeler par exemple, toutes les cellules de l'estomac et de l'intestin se renouvellent en 3-4 jours, donc c'est énorme. Nous avons des usines à construire des tas de cellules de différentes sortes, et pour ça, il nous faut du matériel, comme des camions qui livreraient ce matériel pour construire un immeuble, exactement pareil. Eh bien, si nous n'apportons pas suffisamment de matériel, alors l'organisme est obligé d'aller puiser dans les réserves qu'il a constituées, mais c'est un travail qui est très coûteux. Il faut aller envoyer des camions, forer, reprendre ces camions, aller distribuer. C'est très, très coûteux en énergie, donc il faut plus d'énergie. L'organisme s'organise de telle manière à augmenter du coup la masse grasse qui stocke l'énergie pour pouvoir arriver à faire ce travail. Dès que vous lui apportez suffisamment de matériel, il se dit « j'ai pas besoin de garder autant d'énergie sur moi ». Donc il libère à ce moment-là la masse grasse.
Il arrête de stocker, quoi, c'est
et
ça
oui, et oui, c'est une question de stockage.
Oui, donc finalement, beaucoup de gens grossissent parce qu'ils ne mangent pas assez.
Et parce qu'ils stressent leur organisme en ne mangeant pas assez.
D'accord.
Et d'ailleurs, je vois très bien en consultation, aujourd'hui, c'est la plupart des gens, quand ils viennent, ils ne mangent pas assez, je leur donne plus à manger. S'ils acceptent de le faire, parce que c'est très compliqué psychologiquement d'accepter
ce changement complet,
c'est cette espèce de paradoxe que l'on vit.
Je vais manger plus, je vais maigrir.
S'ils acceptent, eh bien, ils maigrissent régulièrement.
Alors, votre programme, il est fait en 3 semaines. Pourquoi 3 semaines ?
Ah, ça, c'est intéressant. Pourquoi 3 semaines ? Parce que c'est le temps pour le cerveau d'oublier ce que l'on a mangé au début de la première semaine.
Comme ça, on ne se lassera pas, on peut le refaire.
Exactement, on peut le refaire et le cerveau oublie progressivement. D'ailleurs, vous pouvez le constater, quand on vous demande qu'est-ce que vous avez mangé, vous décrivez des choses que vous pensez avoir mangées, et quand on vous filme pour savoir ce que vous avez mangé, ben, ce n'est pas du tout ça. Le cerveau efface volontairement pour augmenter la possibilité de variété alimentaire.
Bon, c'est pas mal ça, hein, comme concept. Et vous dites donc entrée, plat, dessert, mais on fait ça...
Jimmy veut du détail, là. il veut savoir ce qu'il va manger.
Mais je fais ça au petit déjeuner, au déjeuner...
Non, au déjeuner et au dîner. Je parle des repas principaux.
Mais du coup, le petit déjeuner, on peut le sauter ou il faut s'astreindre à manger malgré tout ? Est-ce que je peux sauter le déjeuner en me disant, je vais faire un bon dîner, on va...
Il faut qu'il y ait suffisamment de nutriments. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à peu près au moins 2 repas. On peut très bien imaginer 3 ou 4 repas. Ça dépend de la vie que l'on mène, bien sûr. Mais toujours est-il qu'il faut au moins 2 repas. Je ne compte pas le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est très particulier pour chacun. Il y a des gens qui, le matin, ont une glycémie assez élevée, donc un taux de sucre dans le sang assez élevé, et n'ont pas besoin de manger. Ils peuvent attendre facilement le déjeuner. D'autres, c'est absolument impossible. Ils se lèvent, ils sont affamés, ils vont dévorer le matin. Donc, chacun est différent. Et là, on peut l'adapter en fonction de la physiologie individuelle.
Non, clairement, avec vous, on ne va pas mourir de faim, en tout cas. Hein. Ça, c'est évident.
Ça, j'espère
donc,
bien.
Au petit déjeuner, ce n'est pas encore là qu'on met les recettes de notre enfance, mais on va les mettre après. Ces recettes de notre enfance, il y en a plus de 80 dans le livre. Vous les avez gardées telles quelles ? Je veux dire, le bœuf bourguignon, est-ce que c'est gras ? La poule au pot ? Où est-ce que vous les avez quand même vraiment allégées beaucoup ?
Toutes ont été allégées.
Allégées en mettant des aspartames et des choses comme ça.
Allégées en matière grasse et en sucre, mais en trouvant des astuces pour qu'on retrouve le goût. Parce que c'était ça la difficulté. Par exemple, il y a des recettes où vraiment c'était difficile et on a été obligé de concéder un peu plus de graisse ou un petit peu plus de sucre pour qu'on retrouve le goût.
Ça s'équilibre dans le menu après, dans la journée aussi.
Il faut du plaisir. Si la recette ne donne plus le plaisir, il n'y a aucune raison de la faire. Mais ces recettes, en fait, on les a toutes testées et elles sont vraiment très bonnes.
Mais qui dit recette de grand-mère dit souvent du temps. Moi, j'ai le souvenir justement de temps de préparation assez important. Mais en ce moment, on n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer à l'alimentation, en tout cas à la préparation. Donc, c'est un peu compliqué avec une vie un peu active de
alors,
de
plein, on en a eu plus pendant le Covid. Hein, on a eu plus de temps pendant le Covid. C'est vrai qu'on va retrouver bientôt moins de temps. Mais il y a une possibilité qui est celle, en fait, de préparer une quantité suffisante. Prenez un bœuf bourguignon. Vous pouvez très bien faire des portions, le congeler et vous les ressortez au fur et à mesure de vos besoins.
C'est mieux d'ailleurs, le jour où le frigo est vide, vaut mieux se tourner vers la portion congelée de bœuf bourguignon maison. On sera plus heureux que de mettre une pizza au congélateur.
Bien sûr, on se demande toujours, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir mais
c'est regardez... là qu'on craque en plus, hein, qu'on fait n'importe quoi. C'est ça.
Regardez votre congélateur, vous avez tout ce qu'il vous faut.
Nos grand-mères, elles étaient organisées aussi, elles anticipaient, c'est ça, elles faisaient des grandes quantités.
Elles faisaient des grandes quantités et elles les gardaient, de manière effectivement souvent artisanale.
C'est ça.
Et puis du coup, on apporte quoi, sa gamelle à midi sur le lieu de travail, justement, avec
la poule au pot dans le bento.
Voilà, dans le bento. Il y a des gens qui peuvent apporter. Il y a des espaces qui sont prévus dans certaines entreprises.
Dans beaucoup d'entreprises, quand même, aujourd'hui.
Maintenant, pour le faire. Parce que c'est vrai que les cantines aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à survivre, hein, avec les crises qu'ils ont vécues. Et donc, il va y avoir de plus en plus, en fait, de gens qui vont apporter leur repas au travail.
Moi, je l'ai fait, et finalement, c'est pas si compliqué que ça du tout, hein, en réalité, c'est vrai. Hein. Et on mange quelque chose de très bon qu'on a choisi, qu'on a concocté
exactement
soi-même. Le sandwich sur le pouce, hein, le thon mayonnaise de Jimmy, où on vous en avait déjà parlé, de son thon mayonnaise,
ah, oui,
c'est vraiment une mauvaise idée. Est-ce qu'il est compatible avec votre régime ? Enfin, pas votre régime, votre programme,
oui,
recette de grand-mère.
Mais bien sûr qu'il est compatible, je veux dire, le sandwich, c'est une possibilité.
C'est
que
pas
l'on
un si
a
mauvais repas que ça.
Non, alors attendez, le sandwich, il faut d'abord que ça soit du pain baguette.
D'accord.
D'abord parce que c'est un pain qui n'est pas gras. Et par rapport aux autres pains qui
pas
contiennent
tous
les graisses.
Pas de choses comme ça. Ouais.
Si on peut l'éviter, c'est mieux.
D'accord.
Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, essayons de mettre pas trop de gras à l'intérieur. Si ça déborde
de mayonnaise, un peu de salade, c'est
non, mais on peut mettre un peu de mayonnaise, mais pas que ça déborde de mayonnaise comme dans certains endroits.
D'accord.
Troisièmement, il faut mettre des protéines dedans. Donc, ça peut être du thon,
ou du poulet,
ou du jambon pour
d'autres. Et le soir, pas de pain, par contre.
Et c'est pas fini. Ah. Et il faut compléter avec un fruit.
Et là, ça va. C'est un
repas acceptable. On a pris une part de féculents, on a pris des protéines, on n'a pas pris de légumes, c'est vrai, mais on va se rattraper le soir.
Très bien. Docteur Serroque, merci pour ces précisions. Bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous, reviens dans un instant et on va poursuivre cette immersion dans les recettes de notre enfance. Et justement, on va passer à des questions plus concrètes en abordant ces fameuses recettes un peu allégées et découvrir les astuces pour maigrir en se faisant plaisir. On y revient très vite. À tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et le docteur Serroque nous accompagne toujours cet après-midi. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris et donc avec vous aujourd'hui, on maigrit grâce aux recettes de grand-mère. Et oui, c'est possible, hein, c'est votre nouveau programme. Alors, on ne va pas détailler toutes les recettes de notre enfance qui sont dans le bouquin, il y en a plus de 80. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Et on va détailler quand même quelques-uns des conseils que vous donnez dans le livre. Pour le petit déjeuner, par exemple, là, on ne va pas faire une choucroute de la mère, c'est une des recettes de grand-mère. Non, vous nous avez expliqué, ça ne concerne pas le petit déjeuner. Mais c'est quoi les bonnes règles pour ceux qui ont besoin de ce petit déjeuner ?
Alors, pour ceux qui ont besoin de petit déjeuner, il faut d'abord une boisson. Alors, ça peut être du thé, du café, ça peut être de l'eau, pour ceux qui n'aiment pas ça. Pour d'autres, ça va être du lait. Le lait, c'est toujours un produit intéressant à cause de la quantité de protéines qu'il contient. Puis après, ça va être en général, en France, c'est plutôt du pain, hein, plutôt que des céréales. Dans d'autres pays, c'est des céréales. Mais en France, c'est plutôt du pain. Donc, ça, c'est un morceau de pain. Ça va être du beurre, de la confiture. Bon, ça peut être, on peut y ajouter un fruit. Et puis, il y en a d'autres qui aiment les petits déjeuners salés.
Et ça, c'est
donc,
très bien.
Ça peut être un œuf sur le plat.
Bon, parfois, c'est un œuf, un avocat même le matin. Ça,
ça peut être aussi un avocat, voilà. Donc, c'est différent en fonction de chacun et en fonction de sa faim.
Mais du coup, quand on mange du pain, ça ne fait pas grossir ? Parce que vous dites qu'on peut manger
Jimmy,
du pain.
Surtout qu'il en mange beaucoup, du pain.
Ah oui, des pâtes, c'est des féculents, tout ça. Est-ce qu'on peut y aller ?
Les féculents, il n'y a aucun aliment d'abord qui fait grossir.
Rien n'est interdit avec le docteur Serroque.
Mais c'est vrai, c'est dans la réalité.
Peut-être pas tous les repas le pain quand même, vous dites dans
ça
le livre.
Ça dépend, non, pas du tout. On peut manger du pain à tous les repas, ça dépend de la quantité qu'on va en manger, bien sûr. Mais le pain est un excellent aliment.
Et à condition qu'il y ait quelques légumes à côté quand même.
Le pain, c'est juste un des aliments qu'on va manger au cours d'un repas. C'est vrai que c'est un féculent, mais si on mange, par exemple, beaucoup de féculents, peut-être qu'on peut se passer de pain. Mais si on mange un peu de féculents, si on a 100 grammes de féculents dans son assiette, on peut très bien manger un petit bout de pain avec.
Mais les pâtes, ça ne fait pas grossir, parce que je reviens sur les pâtes, du coup, moi qui mange
beaucoup. Non, alors les pâtes avec la viande et la béchamel.
Oui, il s'est rappelé de votre doudou, vous avez vu.
Du doudou, alors effectivement.
Il ne peut pas le manger tous les jours, celui-là, quand même.
Non, si, parce qu'on peut utiliser une béchamel un peu allégée.
La béchamel un peu allégée.
Quand on fait la béchamel un peu allégée, on va pas faire la
juste de la farine et c'est fou.
Mais d'ailleurs, quand on essaie de refaire les recettes de grand-mère, on n'arrive jamais à retrouver
vous
le même
essayé,
goût.
Pourtant,
j'ai essayé les pâtes à la béchamel. Ma femme, elle a essayé.
Oui.
C'est très bon.
Et vous l'avez la recette, pourtant.
Elle l'a, mais.
C'est très particulier. C'est-à-dire que nos grand-mères ou nos mères donnaient. Ajoutaient quelque chose sans le voir. En fait, elles ne pouvaient jamais le transmettre parce que. Elle ne le voyait pas. Alors, moi, j'ai filmé la mère de mon épouse en train de faire une recette qu'on voulait, la tarte aux épinards, qu'on voulait absolument refaire à l'identique. À l'identique. Eh bien, en fait, on s'est aperçu qu'elle mettait certains ingrédients. Pourtant, elle avait écrit la recette.
Ouais. Mais elle avait omis certains. Peut-être qu'elle voulait garder son secret.
Elle avait omis et je n'ai jamais su exactement ce qu'elle avait rajouté alors que je la filmais.
Mais attendez, vous avez raison parce que ma femme demande à ma Melbert justement quel est son secret pour faire un tagine. J'ai mis un peu de sel, un peu de poivre. Mais je me demande où elle reste. Non, je t'assure, je n'ai mis que du sel et du poivre. Oui. Alors que finalement, on se rend compte qu'il y a du cumin, il y a du safran.
Ma mère a fait la recette de la paella de famille. Hein. Elle me l'a faite, je l'ai faite. Elle n'avait pas du tout le même goût. Elle me dit, c'est normal, de toute façon, tu ne la feras jamais aussi bien que moi.
Voilà. C'est-à-dire que chaque génération garde un secret.
Et oui.
Qu'il ne veut pas transmettre inconsciemment.
Et au bout de la quatrième génération, quand il y a beaucoup de secrets, voilà. Ça ne ressemble plus à rien. Hein,
c'est comme ça que la recette évolue en fait, au cours du temps.
On a bien mangé là, mais est-ce qu'il ne faut pas un peu faire un peu de sport, un peu d'activité physique pour éliminer quand même
un minimum. Oui, vous avez raison. Alors, il faut de l'activité physique. Alors, il faut une activité physique de 150 minutes, d'intensité moyenne, 3 fois par semaine. Et ça, ça permet de garder son poids. Je n'ai pas dit que ça fait maigrir, pas du tout. Mais ça permet de garder son poids lorsqu'on a déjà perdu du poids. C'est indispensable. Si on ne le fait pas, on est sûr qu'on va regrossir.
Bon, dans vos programmes, il y a plein de recettes qui sont vraiment très alléchantes. Il y a les menus et les recettes à suivre pendant 3 semaines. Et moi, j'ai vu un truc, il y a une page qui m'a marqué. L'apéro est permis.
Oui.
Eh oui.
Oui.
Et on mange quoi alors dans cet apéro?
L'apéro, c'était un gros problème parce qu'effectivement, en général...
Les gens, ils sont attachés. Puis là, ça va revenir
oui,
avec
alors
les terrasses qui vont rouvrir.
On a fait un tzatziki allégé, on a fait des concombres.
Rillettes même, il y a des rillettes.
On a fait des
rillettes. Super, mais j'ai vu que c'était des rillettes de sardines et je déteste les sardines.
Voilà, des rillettes de sardines. Donc, oui, on a fait exprès un certain nombre d'apéros parce que les enfants aiment bien participer, parce que les parents veulent aussi manger avec leurs amis et les enfants.
Y compris quand on fait attention, donc on peut se permettre un apéro de temps en temps.
Et du coup, je reviens sur les rillettes de sardines. Dit comme ça, ça ne donne pas très envie, mais est-ce que ça aurait des vertus nutritionnelles de manger de la sardine?
Ah oui, parce que la sardine contient des oméga-3, ces fameux acides gras essentiels que nous ne savons pas fabriquer et dont plus de 90% de la population sont en manque.
Donc, c'est des bonnes rillettes vraiment qui sont aussi bonnes que les rillettes classiques, charcuterie, c'est des bonnes... Vous les avez goûtées, les rillettes de sardines?
Elles sont beaucoup moins grasses et c'est beaucoup plus agréable parce que, le goût de la sardine ressort beaucoup plus dans ces cas-là. Ah ouais.
Pour l'apéro, il y a aussi une petite recette d'œuf au cumin, d'œuf dur au cumin. D'ailleurs, l'œuf, on le voit dans le bouquin, vous dites que c'est un aliment extraordinaire.
Extraordinaire.
Qu'on a un peu stigmatisé en disant le cholestérol, attention, mais on peut y aller en fait.
Non, parce que finalement, ça augmente très très peu le cholestérol sanguin. Et c'est pas ça, c'est le foie qui fabrique avant tout du cholestérol. C'est pas tant l'alimentation qui nous importe énormément. Et donc, en fait, l'œuf, c'est formidable. Cette création de l'œuf, c'est un aliment qui a en lui-même tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire toutes les protéines absolument essentielles pour nous. C'est extraordinaire.
Ouais. On peut le cuisiner dans mille façons.
Et en plus, quand vous le faites dur, il se conserve à température ambiante pendant 15 jours ou 20 jours.
Ah bon, ça, j'avais pas tant que ça.
Si vous le laissez dans sa coquille, il se conserve.
Moi, je mange ça parfois quand j'ai un petit creux. En plus, ça coupe un peu la faim, j'ai l'impression.
Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez plus enfant. Il y avait sur les comptoirs des cafés, il y avait des petits appareils avec des œufs durs dessus. Et on rentrait quand on avait faim, on rentrait dans un café, on prenait une boisson, on prenait un œuf dur, clac, 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 et hop, on mangeait un œuf dur.
Bon, n'hésitez pas à préparer des œufs durs, ça se garde 15 jours.
Et on n'avait plus faim. Ils les ont retirés pour des raisons sanitaires. Qui sont complètement idiotes. Complètement idiotes parce que l'œuf est très bien conservé.
Allez, on fera une pétition pour le retour des œufs durs sur les comptoirs.
Ouais, c'est super, ce sera mieux que les cacahuètes en tout cas.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Serocq, d'avoir répondu à nos questions. Alors, je rappelle votre livre, bien sûr, votre méthode Maigrir avec les recettes de votre enfance, écrit avec la psychologue Roselyne Lévy-Bass, paru aux éditions Marabout. Merci encore, docteur.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Avec la pancréatite, cette inflammation du pancréas, savez-vous par quoi elle est causée? Quels sont les premiers signes? Pour ne pas passer à côté, le docteur Jimmy Mohamed va tout nous expliquer. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, passons à notre séquence, les bobos, les mots du quotidien, dans laquelle on s'intéresse aujourd'hui à la pancréatite, cette inflammation du pancréas. Savez-vous ce qui cause cette pathologie? Comment savoir qu'on en souffre? Quels sont les premiers symptômes? Et enfin, comment on la traite? Notre reporter Barbara Silvera Sonigo a été tester vos connaissances sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
Une pancréatite, c'est un problème au pancréas?
Je pense que c'est lié à l'estomac, une inflammation au niveau de l'estomac.
C'est peut-être un enflement du pancréas.
C'est une douleur au niveau du ventre?
Une bonne grosse douleur, je pense.
Qui doit lancer, à mon avis, qui doit même empêcher de dormir la nuit. Un peu comme des coups de poing, un petit peu comme une appendicite, peut-être.
Pancréas a un rapport avec le diabète, donc peut-être un problème de diabète.
À mon avis, ça se diagnostique déjà par la palpation, par un examen clinique chez un médecin. Et après, ça doit être par échographie, à mon avis.
Ça pourrait venir à un peu de l'alimentation, de faire attention à son alimentation. Le stress, je ne sais pas si c'est comme un peu les ulcères.
Ça se soigne avec des médicaments, mais je ne connais pas, je ne sais pas.
Je pense que si ce n'est pas pris à temps, ça peut être assez grave et provoquer une hospitalisation et peut-être dans les pires des cas, une ablation du pancréas.
Oula, ça, je ne sais pas si on va jusqu'à l'ablation. On va voir avec vous, Jimmy. Alors, on va reprendre du début. D'abord, expliquez-nous ce que c'est finalement la pancréatite. Je crois qu'il y en a deux types, hein.
Oui, il y a deux types. Alors, la pancréatite, c'est l'inflammation du pancréas. C'est une glande qui se trouve derrière l'estomac, qui, pour diverses raisons, peut devenir inflammatoire et donner des douleurs. C'est ça le maître mot. Dans 90% du temps, vous allez avoir une douleur au niveau de l'estomac, c'est-à-dire au-dessus de votre nombril. Et elle va être transfixiante, c'est-à-dire qu'elle va traverser et arriver au niveau du dos. Et la douleur est vraiment insupportable et elle est maximale en quelques heures, à tel point que les patients vont se retrouver en chien de fusil.
Ça, c'est la pancréatite aiguë, quoi. Aiguë. Hein, vraiment,
et puis, vous avez la pancréatite chronique. C'est le fait d'avoir des pancréatites à répétition qui vont donner moins de douleur, mais beaucoup plus de complications.
Alors, qu'est-ce qui cause l'inflammation de cette petite glande?
Alors, deux choses principalement. Un, l'alcool. Et ce n'est pas l'alcoolisme aigu. Ce n'est pas parce que vous buvez tout d'un coup 4-5 verres que vous allez avoir une pancréatite aiguë. C'est l'alcoolisme chronique. La répétition des intoxications à l'alcool va abîmer petit à petit votre pancréas et boucher aussi.
Il n'y a pas que le foie, il y a le pancréas qui
exactement
souffre aussi. Hein, de
et puis, deuxième cause très fréquente, c'est le fait de faire un calcul au niveau de la vésicule biliaire qui va migrer. Et dans ces cas-là, on fait une échographie. Et donc, c'est les deux causes principales de pancréatite, l'alcool et le calcul.
Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de cette inflammation dont on vient de parler, sur le pancréas en lui-même, à la longue, une pancréatite, ça peut avoir de graves conséquences.
Oui, quand les pancréatites se répètent, on aboutit à une pancréatite chronique. C'est de l'inflammation au niveau du pancréas qui va aboutir à une fibrose, un peu comme la cirrhose du foie, qui va détruire plus ou moins de façon rapide le pancréas, qui va aboutir par la suite à une insuffisance pancréatique, c'est-à-dire que vous n'allez plus synthétiser les hormones du pancréas. Et donc, du diabète notamment, mais aussi d'autres complications comme des infections avec des espèces de kystes qui vont se former. Et puis, ça peut aboutir dans un certain nombre de cas à un adénocarcinome, donc un cancer du pancréas.
Ouais, ça, non.
Sans parler
ouais
des autres conséquences, puisque lorsque vous faites des pancréatites chroniques, c'est que vous avez bu beaucoup d'alcool et donc forcément, les autres organes, à cause de l'alcool, vont être aussi endommagés.
Redites-nous les signes pour ne pas passer à côté. Enfin, on ne peut pas le louper, ça fait mal. Hein,
c'est une
ça
douleur abdominale ouais, transfixiante, ouais, absolument insupportable, associée à des nausées et des vomissements.
Donc, on va consulter, il n'y a pas
on
de
va consulter. Et souvent, les patients, ils atterrissent aux urgences, en tout cas pour le premier épisode, car ils pensent qu'ils font une dissection, une occlusion, à tel point ils sont mal.
Il y a bien des choses à dire, mais on a peu de temps. Jimmy, comment ça se traite la pancréatite?
Il n'y a pas de traitement.
Gros, on va dire.
Ah le seul traitement, c'est d'éviter de boire de l'alcool,
vite dit,
de se débarrasser d'un calcul. Et lorsque vous êtes hospitalisé, puisqu'une pancréatite s'hospitalise systématiquement, on vous met à jeun pour laisser le tube digestif et le pancréas au repos. On vous perfuse. Lorsque vous vomissez, on vous met une sonde nasogastrique. On fait des examens complémentaires. Parfois, il y a des complications avec des infections de nécrose. Donc, c'est une maladie.
On peut l'éviter, la prévenir. Enfin, oui, en buvant peu d'alcool.
Et oui, on évite l'alcool. C'est le sevrage alcoolique. Ouais. Et on dit justement aux gens attention, la prochaine fois, il faudra éviter l'alcool car vous risquez, entre autres, ce genre de complications.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage.
Europe 1.
Dans un instant, restez avec nous. On va retrouver la chronique sexo de Catherine Blanc, comme tous les jours. On revient dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, comme tous les jours. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à Carole. On l'écoute.
Bonjour Catherine. J'ai fait une chirurgie esthétique il y a quelques temps. Mais mon mari me lance tout le temps des reproches du genre « Pourquoi tu l'as fait ? C'est pas pour toi. Je suis sûre que c'est pour plaire aux autres hommes. » Je comprends pas pourquoi il est si jaloux. À la place, il devrait peut-être en profiter, non ? Merci de votre réponse.
Alors Catherine, c'est vrai qu'elle a pas tort, on a le droit de se faire plaisir pour nous toutes seules, pour soi, tout simplement.
C'est pas non seulement on a le droit, c'est que c'est quand même normalement censé être
que
la
c'est
priorité.
La base, ouais, voilà. C'est ça. Donc là, pourquoi cet homme-là, eh ben, tout d'un coup, est ultra jaloux, quoi, en fait, hein, c'est ça?
Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment cette idée que comme tu es ma femme ou ma compagne, qu'importe, ou ma petite amie, tu m'appartiens. Et donc tout ce que tu fais pour, qui te met en valeur, eh bien c'est pour plaire et donc pour me plaire. Or tu me plaisais déjà, si tu le fais, c'est que tu veux plaire à quelqu'un d'autre. Puisque tu me plaisais tel qu'étaient tes seins, eh bien si tu le fais maintenant, c'est que ces seins vont servir à quelqu'un d'autre. Donc c'est touchant, désespérant d'un côté, mais assez touchant.
Elle a jamais dit que c'était les seins, hein, mais bon, peut-être que
ah, pardon.
Si.
Ah, si, je sais pas. Non, c'est moi qui ai dit les seins. Je sais pas
c'est souvent ça. Hein,
parce que c'est souvent ce que j'entends, effectivement, mais ça peut être effectivement n'importe quoi d'autre, le nez ou je ne sais quoi. Mais pas comme sa voix était toute jeune, je sais pas, j'avais imaginé les seins.
C'est courant, c'est courant. Comme,
c'est idiot, mais voilà. Bon, le fait est que c'est quand même. C'est intéressant cette idée que donc tout ce que tu fais, c'est pour plaire. Ce qui veut dire que tu m'échappes et même si tu avais des défauts, j'aimais l'idée que tu aies des défauts puisque c'était une façon d'assurer la relation que l'on pouvait avoir tous les deux.
Et c'est pas très malin de sa part, puisque si jamais elle fait cette chirurgie esthétique, elle l'a fait pour elle, et donc elle va se sentir mieux, et donc plus épanouie très certainement dans sa tête, dans son corps, et donc par extension dans son couple. Donc il va être bénéficiaire finalement de la chirurgie esthétique.
Il ne vaut pas le bénéfice.
Mais oui, au-delà du fait d'avoir des plus gros seins, ou je sais pas, ou la bouche, ou les yeux, je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais peu importe. Mais finalement, ça va lui profiter, même si ce n'est pas physique.
Bien sûr, mais ça rend compte de tout son doute quant à lui-même, puisque en réalité, bien sûr qu'une femme, plus elle est en tranquillité avec elle-même, si elle ne fait pas la chasse, évidemment, à une image idéalisée à laquelle elle n'accédera jamais, c'est plutôt ce qui va en effet l'épanouir et du coup faire le bénéfice de la relation. Ceci étant, lui, il peut avoir le sentiment que tant qu'elle était, si lui a des doutes quant à lui-même, quant à son physique, quant à la sécurité de son lien ou de l'intérêt que l'on peut lui porter, eh bien, il peut avoir le sentiment que plus elle sera belle, plus elle se sentira en confiance et plus elle le quittera. En fait, c'est ça toute la difficulté. C'est que ça parle moins de la fragilité de la relation que, enfin, de l'intérêt qu'une femme pourrait avoir quant à elle et ce que ça pourra épanouir. Ça rend compte de la fragilité de la relation et de la fragilité de l'homme en question qui doute de lui-même et qui doute de la qualité de la relation et qui croit qu'il n'a de valeur qu'à la condition que l'autre soit fragilisé. C'est ce qu'on trouve aussi, par exemple, dans le cadre professionnel. Un homme est avec une femme qui ne travaille pas, cette femme veut travailler. Dans la théorie, ça serait super. Et en fait, dès qu'elle commence à faire des études, à devenir autonome, etc., il se dit qu'il n'aura plus de rôle à jouer et que donc il sera quitté. C'est donc vraiment son problème à lui.
Et oui, son problème à lui. En plus, peut-être que ça le ramène aussi au fait qu'elle s'entretient et que lui, bah, il se laisse peut-être aller aussi.
Tout à fait.
Vous avez juste aussi simple que ça. Hein.
Exactement. C'est-à-dire que vous avez effectivement des gens qui ne supportent pas l'idée, même par exemple, que vous fassiez un régime, parce qu'eux n'y arrivent pas. Et l'idée que vous puissiez perdre des kilos alors qu'eux sont encombrés de leur impossibilité.
Quand bien même l'amour qu'ils vous portent.
Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la relation d'amour, ça a à voir avec la difficulté qu'on a à faire avec soi et la difficulté de voir que l'autre à côté s'émancipe ou en tout cas trouve l'énergie ou le courage que nous on ne trouve pas soi-même et l'autre pouvant progresser et après du coup ça crée une distorsion dans la relation parce qu'il y a un vrai déséquilibre et donc la peur que à dessein, bien l'autre évidemment quitte.
J'essaie de trouver une circonstance atténuante. Peut-être qu'il a peur qu'elle soit à la course, à la poursuite d'une image parfaite et que oui, si elle a fait une chirurgie, elle va en faire deux, puis trois, et puis cet engrenage, alors que finalement, lui, il l'aime telle qu'elle est. Peut-être que c'est une histoire.
Oui, sauf que là, il semble qu'elle le
pas
vit
aussi bien.
Elle le vit comme une jalousie. Donc, je crois que c'est bien au-delà que de la rassurer en disant, ma chérie, tu es une beauté merveilleuse qui me plaît.
Puis il fallait peut-être lui dire avant qu'elle fasse cette chirurgie. Du coup, elle n'a pas dû la faire dans son dos, quoi. Je veux dire, c'est ça.
Probablement pas.
C'est quelque chose qu'on doit dire d'ailleurs, non ? Est-ce qu'on doit quand même parler d'une chirurgie esthétique dans un couple ? Non,
Ça, je crois que quand même, c'est important parce que non pas parce que l'autre aurait un droit de dire oui ou non, mais parce qu'on ne surprend pas l'autre en arrivant d'un seul coup totalement transformé. C'est parce qu'on a aimé ce corps, on a aimé ce corps, on a palpé ce corps, on a aimé ses traits. Et comme on le sait, même si la chirurgie fait de très, très, très jolies choses, ce peut être des choses très éloignées de qui était la personne au départ. Donc quand même, ça, c'est quelque chose que l'on peut parler.
Moi, je dis quand je cherche une baguette, j'informe ma femme, donc si je me faisais relever le nez, il faut le dire, il faut en parler.
Pour la baguette, c'est bien si vous ne voulez pas qu'il y en ait deux le soir, et pour la décharger de la préoccupation, mais sinon, vous pouvez y aller sans lui en parler.
Oh non, je dis ce que je fais, je veux des bons points, comme les enfants. Ah, bravo, vous avez décharché la baguette. Mais on s'éloigne du sujet.
Merci encore beaucoup la baguette. À tous les deux. Merci pour vos conseils. Merci. Bon, la baguette de Jimmy, on a compris, c'est important. Tout ça pour parler de communication dans le couple. Merci à tous les deux tout de suite. C'est Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie.
Aujourd'hui, on a trouvé des frères gonflés, mais sacrément gonflés. Les frères montgolfiers.
Je savais même pas qu'ils existaient, ceux-là.
Ils étaient. Bah si, la montgolfière.
La montgolfière.
Oui, mais bon, les frères montgolfiers, franchement.
Bah oui, ils ont gonflé la montgolfière. Les frères Michelin, bon, ils ont gonflé les pneus. Et puis, Mathieu, il a choisi les frères Bogdanov.
Ah oui, il a gonflé aussi, oui.
C'est vous, c'est lui évidemment.
Ils ont gonflé, c'est l'hypertrophie du mois.
Mais pas du tout, ils sont gonflés parce qu'ils ont vulgarisé la science à la télévision. Oui. Voilà
on
pourquoi.
Pourrait faire
voilà
une émission pourquoi. Médicale presque. Ouais. Bon écoutez, très bien, ça m'amuse. En tout cas, je vais rester bien sûr sur l'antenne d'Europe 1 et vous aussi faites la même chose. Restez avec nous.